Il est 18h30 à Bamako, 19h30 à Paris, 20h30 à Khartoum.
Afrique Soir sur RFI.
Présenté par Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir à vous Adrien, bonsoir à tous. Au Mali, Joliba TV n'émettra plus dès demain. La haute autorité malienne de la communication ferme la chaîne à la demande du Burkina. Un intervenant avait dans une émission remis en cause la thèse d'un coup d'État déjoué par les autorités burkinabées. Le Sénégal commémore dimanche le 80e anniversaire du massacre de Tiaroy. Le 1er décembre 1944, l'armée française avait massacré des tirailleurs sénégalais dans ce camp militaire situé près de Dakar. Dans l'actualité également, la crise dans l'est de la République du Congo. À Luanda, Congolais, Rwandais et Angolais discutent du processus de paix dans cette région où sévissent les groupes armés. Nous appellerons à Kinshasa Paulina Zidi. Le dossier d'Afrique Soir consacré à la découverte de Lucie, la plus célèbre Australopithèque, c'était il y a 50 ans. L'invité d'Afrique Soir, Raymonde Bonnefille. Elle a fait partie de l'équipe de paléo-anthropologues, auteur de cette découverte qui a révolutionné la connaissance de nos ancêtres. Mais d'abord le football et le retour triomphal à la maison des joueuses du tout-puissant Mazembe. L'équipe féminine est entrée samedi dans l'histoire de la Ligue des champions de la CAF. Les Congolaises ont créé la surprise en remportant la 4e édition de la compétition 1-0 face à l'AS FAR. Et c'est le plus prestigieux des titres des clubs en Afrique à Lubumbashi, Pascal Mangala.
Déjà à sa descente d'avion, Merveille Kanjinga s'est vu offrir un bouquet de fleurs par un supporter du TP. Un geste que l'attaquante de Mazembe gardera en souvenir toute sa vie.
Ça m'a fait très très bien de sortir comme ça et on t'a offert une fleur. C'est vraiment une grande chose, merci beaucoup toutes les personnes qui nous soutiennent.
Le groupe d'animation des 100% était à la baguette pour rendre particulier l'accueil des reines du football africain. Priscille Créteau, attaquante ivoirienne, était tout émue.
C'est l'émotion. Nous sommes émus en tout cas. Nous remercions toute la population de Lubumbashi qui nous a supportés pendant tout ce temps-là, qui nous a soutenus. En tout cas, nous leur disons merci.
La fierté et l'honneur de la femme étaient tellement forts pour Irène Mbouyi, une supportrice des corbeaux, qu'elle a bravé, dame la pluie qui a arrosé Lubumbashi, pour être à l'aéroport de la Loano.
C'est toujours les garçons qui gagnent. Maintenant, c'est notre tour. C'est pourquoi on vient ici accueillir les femmes. Moi, je me sens honorée plutôt et toutes les femmes.
La fête devra se poursuivre encore demain mardi au stade de Kamalondo, où il est prévu la présentation du trophée avant le coup d'envoi du match des garçons contre MC d'Alger. Pascal Mangala, Lubumbashi, RFI.
Au Mali, Joliba TV va cesser d'émettre à partir de ce mardi. La haute autorité malienne de la communication, la HAC, a décidé de fermer la chaîne à la demande du Burkina. Il y a deux semaines, lors d'un débat télévisé, un intervenant, Issa Kaoundjim, avait jugé que la dernière affaire de supposé coup d'État déjouée par les autorités burkinabées n'était pas crédible. Dans la foulée, il a été emprisonné. Il sera jugé en février pour offense commise publiquement envers un chef d'État étranger. Quant à Joliba TV, elle est donc condamnée. Mais ni la chaîne, ni les organisations professionnelles maliennes de la presse ne comptent en rester là. Et cet après-midi, une délégation de la Maison de la Presse du Mali s'est rendue à la Haute Autorité malienne de la communication. David Bachet.
La délégation de la Maison de la Presse comptait une dizaine de personnes représentant l'ensemble des organisations de journalistes du Mali. Face à eux, les 9 membres du Collège de la Haute Autorité de la Communication. Nous leur avons dit que leur décision était disproportionnée, qu'elle mettait en péril des emplois et qu'elle portait atteinte à la liberté de la presse, explique un participant qui se dit confiant. Ils ont exprimé de bonnes intentions, promis une réponse diligente. Nous sommes suspendus à leur décision. Un discours d'apaisement qui n'empêche pas la Maison de la Presse de menacer. Si elle n'est pas entendue, un appel sera lancé à tous les médias maliens pour rediffuser l'émission à l'origine de la fermeture de Joliba TV. La chaîne privée malienne a reçu la notification du retrait de sa licence jeudi dernier et immédiatement initié une procédure de recours. Cette démarche et la médiation de la Maison de la Presse du Mali permettront-elles de sauver Joliba TV? À ce stade, la fermeture de la chaîne est toujours censée entrer en vigueur demain mardi. Sollicité par RFI, le président de la HAC, Gaou Sou Koulibaly rappelle que RFI est déjà coupé au Mali depuis plus de 2 ans et demi. Il n'a donc pas souhaité répondre.
Vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, 18h passée de 35 minutes à Conakry. Le 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de toutes sortes de violences faites aux femmes. Et en Guinée, cette journée a été célébrée au Palais du Peuple à Conakry. Moukhtarba.
Hadja Mariama Silla, ancienne ministre des Affaires sociales, est aujourd'hui militante pour la défense des femmes. Elle dénonce les violences dont sont victimes les Guinéennes.
La pire forme de violence que nous avons connue, c'est les mutilations génitales féminines. Le mariage précoce, où la Guinée est située deuxième en Afrique par rapport au taux. Après cela, nous vivons aujourd'hui un autre phénomène, celui du viol et de l'assassinat des petites filles. Et c'est ce qui m'écœure.
En 2009, plus de 100 femmes avaient été violées lors du massacre du 28 septembre à Conakry. 4 mois après le verdict du procès et les condamnations pour crimes contre l'humanité, l'ancienne ministre interpelle les autorités guinéennes.
J'interpelle ici le corps social, le gouvernement, jusqu'au dernier, les religieux, pour qu'ils nous à ce que nous changeons de paradigme, que la violence ne soit plus tolérable.
Hadja Maimouna Yombono, la vice-présidente du Conseil national de transition, est à l'origine de cette mobilisation. Elle-même victime de violence, elle lance un appel à la solidarité des femmes guinéennes.
Et j'interpelle toutes les femmes qui ont des bonnes positions de mouiller. Tout le monde n'a pas l'occasion d'accéder à un poste de responsabilité. Mais si vous accédez à un poste de responsabilité, ne restez pas dans le confort. Continuez à vous battre pour aider les autres. Je veux seulement me rendre utile à ma société.
Entamée ce lundi, la mobilisation prendra fin le 14 décembre, lendemain de la Journée internationale des droits de l'homme. Moukhtarba, Conakry, RFI.
On en vient à présent à la crise diplomatique entre Niamey et Bruxelles, une crise qui s'envenime. Le Niger demande cette fois le rappel de l'ambassadeur de l'Union européenne dans le pays et son remplacement dans les plus brefs délais, selon un communiqué des Affaires étrangères. Samedi, l'Union européenne avait de son côté annoncé le rappel de cet ambassadeur pour consultation après que le Niger ait accusé Bruxelles d'avoir alloué des aides humanitaires à des ONG sans le consulter. Pierre Benazé.
C'est la réaction officielle très limitée de l'Union européenne pour l'instant. Nous étudions les options à notre disposition. Officieusement, la demande de remplacement du chef de mission, de l'ambassadeur de l'UE, équivaut, selon l'Union, à le déclarer persona non grata. Ceci lui ouvre un vaste éventail d'options. Elles suivent une gradation de plus en plus lourde politiquement. En premier lieu, il y a les mesures miroirs. L'UE peut déclarer persona non grata à l'ambassadeur nigérien à Bruxelles ou son adjoint. C'est la réciprocité et c'est la réaction la plus courante. Si elle veut aller plus loin, elle peut aussi exiger le départ d'autres membres du personnel de l'ambassade. En fait, tout dépend de l'évaluation de la gravité de la situation et de la volonté ou non de limiter l'escalade des tensions. L'UE peut aller jusqu'à couper ce qu'elle appelle les chaînes de communication et demander la solidarité des États membres, ce qui implique que les 27 capitales nationales prennent les mêmes mesures de rupture diplomatique que l'Union européenne, une option réservée aux cas les plus extrêmes. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Dakar, 92 FM.
Le Sénégal commémore dimanche le massacre de Tiaroy le 1er décembre 1944 dans ce camp militaire situé en banlieue de Dakar. Des dizaines de tirailleurs sénégalais, des centaines peut-être, sont exécutés par l'armée française. Ces soldats africains avaient réclamé le paiement d'indemnités qui leur étaient dues. À l'approche de cet anniversaire douloureux, une délégation d'historiens et d'archivistes sénégalais explore les fonds d'archives français depuis 2014. La France assure avoir remis au Sénégal une copie de toutes les archives liées à ce massacre, mais le Sénégal suspecte l'existence de documents gardés secrets. Comment expliquer que 80 ans après, cette question des archives reste encore problématique? Écoutez l'historien Mamadou Diouf, il est professeur à l'université de Columbia à New York et il préside ce comité mis en place pour préparer les commémorations. Il répondait à Florence Maurice dans Afrique Midi.
La question des archives, elle est centrale parce que dès le moment où le massacre a été exécuté, il y a eu une volonté délibérée de ne pas présenter ce qui s'est passé de la manière la plus objective possible. Il est évident que la volonté de dissimulation française a fait qu'il était difficile d'avoir accès à ces archives. Et les historiens se sont bagarrés, continuent de se bagarrer pour avoir accès à toutes ces archives. Mais ça, c'est pas nouveau. Si vous connaissez toute l'histoire du travail sur Vichy, et le travail qui a été fait par un historien américain, Robert Paxton. Mais il l'a fait alors que la France ne voulait pas qu'on étudie Vichy. Quand la France est dans l'euphorie de la libération, que l'idée des compagnons de la libération qui vont restaurer la grandeur de la France, c'est à ce moment-là qu'on massacre des gens qui ont participé à la guerre. Et donc, les Français ne veulent pas qu'on parle de ça.
Et puis, j'ajoute que RFI vous propose un podcast intitulé « Tiaroy, les tirailleurs sacrifiés ». Podcast écrit par Charlie Dupiot à son micro, l'ancien président français François Hollande, qui reconnaît que c'est un massacre à la mitrailleuse que l'armée française a commis le 1er décembre 1944 à Tiaroy. Vous écoutez RFI, 19h41 à Paris et à Kinshasa. Nouveau round de discussion à Luanda ce lundi. Les ministres des Affaires étrangères de la RDC, du Rwanda et de l'Angola sont arrivés ce matin. Ils se sont réunis dans la capitale angolaise. Ils doivent discuter du processus de paix dans l'est du Congo. Rappelons que l'Angola est médiateur de l'Union africaine dans cette crise. Paulina Zidi, vous êtes notre correspondante à Kinshasa. Bonsoir Paulina.
Bonsoir.
Et les parties prenantes vont se pencher sur un plan qui a été proposé fin octobre par les experts.
Oui, c'est en fait sur la deuxième mouture de ce plan harmonisé que plantent les chefs de la diplomatie des trois pays depuis ce matin. Une première version de ce plan avait été présentée lors d'une tripartite au mois de septembre, une feuille de route finalement refusée par la ministre congolaise Thérèse Wagner. Depuis, les experts se sont de nouveau réunis, notamment fin octobre à Luanda, pour se mettre d'accord sur un nouveau document. Peu de détails ont filtré de ce nouveau plan, si ce n'est que comme l'ancien, il prévoit deux axes, la neutralisation des FDLR et le retrait des forces rwandaises. Et on sait qu'il y a une divergence au niveau du calendrier, de la synchronicité de ces deux opérations. Pour Kinshasa, la demande première, c'est la levée des mesures de défense rwandaise, c'est-à-dire le départ des militaires de Kigali, de RDC, présence que les autorités rwandaises continuent de nier. Mais l'Angola veut afficher son optimisme. Tété Antonio, le ministre, a tenu des propos encourageants ce matin au début de la réunion, se disant convaincu qu'un dialogue ouvert pourra garantir l'entente des parties. Dans le même temps, en marge de cette réunion ministérielle, l'envoyé spécial du président de RDC, en charge de ce processus de Luanda, Mambu Sitasumbo, a lui été reçu par le président João Lourenço ce lundi, annonce ce soir l'agence de presse angolaise.
Paulina Zidi en direct de Kinshasa. En bref, la Zambie et le Zimbabwe ont connu presque simultanément une coupure générale d'électricité hier soir. Le courant est revenu ce matin. Les deux pays annoncent avoir ouvert une enquête sur les raisons de la panne. Au Mozambique, les enfants victimes de la répression des manifestations post-électorales du mois passé. Voilà ce que révèle Human Rights Watch selon des chiffres que l'ONG a publiés. Aujourd'hui, 10 enfants ont été tués, des centaines arrêtés par la police lors des manifestations convoqué depuis le 21 octobre par le candidat de l'opposition Venancio Mondlane, Gaël Alex.
Le 4 novembre, Esther décide de renvoyer sa fille à l'école. La veille, c'est ce qu'avait demandé à tous les parents le chef adjoint de la police nationale. En rentrant des cours ce soir-là, la fille d'Esther est prise dans un attroupement de manifestants qui fuient des gaz lacrymogènes. À 13 ans, elle meurt d'une balle dans la nuque. Des cas comme celui-ci, Human Rights Watch en documente une dizaine, auxquels s'ajoutent 36 enfants blessés par arme à feu dans des circonstances similaires. L'ONG accuse la police mozambicaine d'un usage abusif de la violence dans sa répression des manifestations. Elles ont démarré pacifiquement, explique son communiqué. Malgré cela, les forces de sécurité ont utilisé des balles réelles, des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes. Dans sa répression, la police a également arrêté des centaines d'enfants, selon Human Rights Watch. Certains ont été détenus plusieurs jours durant sans en avoir informé leur famille. Selon le dernier décompte de la plateforme électorale Décide, publié aujourd'hui, 67 personnes ont été tuées durant un mois de mobilisation post-électorale, 210 ont été blessés par balles et plus de 1350 arrêtés. Gaëlle Alex, Nairobi, RFI.
En bref, au moins 22 Somaliens ont péri en mer au large de Madagascar. 48 personnes somaliennes aussi et qui se trouvaient à bord de deux bateaux ont été secourues et ramenées sur l'île de Nosibé. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui les autorités malgaches. C'était il y a 50 ans, une équipe de paléo-anthropologues découvrait dans le nord-est de l'Éthiopie les fossiles d'un squelette vieux de plus de 3 millions d'années. Il deviendra célèbre, ce squelette Lucie, la plus célèbre australopithèque. Et cette découverte par l'équipe de scientifiques formée par Maurice Taïeb, Yves Coppens, Donald Johansson, John Kalb ou encore Raymond Bonnefille va révolutionner la recherche scientifique mais aussi la compréhension de nos ancêtres. Alexandra Bonjour.
Des morceaux de crâne, une mandibule, quelques côtes, une partie du bassin, du fémur, du tibia. Au total, 52 fragments d'os appartenant à un seul et même individu, qui ont permis de reconstituer environ 40% du squelette. À l'époque, c'est l'un des plus anciens squelettes jamais retrouvés et surtout le plus complet. Ce fossile de type féminin date d'environ 3,2 millions d'années. Les scientifiques le baptiseront Lucie en raison d'une chanson des Beatles qu'ils écoutaient dans le campement. Ils estiment qu'elle mesurait entre 1,5 m et 1,10 m, pesait entre 25 et 30 kg et grâce à une dent de sagesse retrouvée qu'elle était âgée d'environ 12-13 ans. Mais l'étude de son squelette va surtout révéler qu'elle se tenait debout et marchait, même si elle continuait de grimper aux arbres. Une révolution, à l'époque, les scientifiques pensaient que la bipédie était apparue beaucoup plus tardivement. Yves Coppens dira d'elle qu'elle marche comme les hommes d'après et grimpe aux arbres comme les hommes d'avant.
Et à l'époque, en 1974, Lucie est le plus vieux fossile préhumain découvert. Et parmi les chercheurs qui se trouvaient sur place, la géologue spécialiste de palymologie, ça c'est l'étude des pollens fossilisés, Raymonde Bonnefille, qui est l'invitée d'Afrique Soir, Alexandra Bonjon, lui a demandé quels souvenirs elle gardait de cette journée si particulière.
Nous étions 5. Yves Coppens, c'était le senior que notre organisation nous avait demandé d'associer, car nous n'étions encore que des doctorants. En ce qui me concerne, je n'étais pas là. C'est le soir, en arrivant à la tombée de la nuit, que l'étudiant Tom Gray m'a annoncé en sautant de joie. On l'a découvert. Voilà, on l'a trouvé, m'a-t-il dit.
Et est-ce que justement l'équipe a tout de suite compris l'importance de cette découverte ?
L'équipe était composée de différents spécialistes. Le paléoanthropologue Donald Johansson, qui connaissait le mieux les australopithèques, tout de suite compris son importance. Nous aussi, parce que nous avions une expérience de terrain dans d'autres expéditions, et on trouvait à ce moment-là des fragments isolés, tantôt une mandibule, tantôt un morceau d'os d'un membre du bras, mais pas d'ensemble constituant un squelette presque complet.
Alors que dans ce cas, le squelette est complet à environ 40%.
Voilà. Bon, il y avait les deux bras, y compris le bassin, des vertèbres, des côtes. Il manque seulement les fragments de crâne. Le crâne n'est pas complet du tout.
Pourquoi est-ce que cette découverte est si importante?
Elle est importante parce que l'année précédente avait été découvert un genou, pas au même endroit, mais qui montrait qu'il y avait là des individus qui étaient debout. Or, à l'époque, on pensait que les premiers hommes s'étaient mis debout, libérant la main qui leur permettait d'utiliser des outils taillés. Et les outils taillés étaient de moins de 2 millions d'années. Donc, c'est absolument extraordinaire de reculer dans le temps l'origine de nos ancêtres.
Ça montrait qu'elle pouvait marcher sur ses deux jambes déjà il y a 3 millions d'années.
Oui, et après, il a été montré qu'elle était aussi arboricole, c'est-à-dire qu'elle était capable de se suspendre dans les arbres. Il est probable qu'elle cherchait les arbres à la fois un abri et à la fois de la nourriture.
Alors aujourd'hui, elle n'est plus la plus ancienne australopithèque.
Non, elle n'est plus la plus ancienne australopithèque. Il y a trouvé jusqu'à 5 millions d'années. Et puis, il y a aussi des australopithèques trouvés en Afrique du Sud. Donc, on peut dire qu'il y a une diversité d'espèces durant cette période.
Plus tard, il y aura également la découverte d'ossements d'australopithèques au Tchad.
Dans le Tchad a été trouvé un crâne seulement, peut-être un fémur, on ne sait pas. Et c'est dans un dépôt qui daterait autour de 6 à 7 millions d'années. Cela indique aussi peut-être des individus qui étaient debout. Donc on voit que la bipédie apparaît à différentes périodes. Elle est très ancienne et peut-être il y a différentes façons d'être bipède.
La chercheuse et géologue Raymonde Bonnefille avec Alexandra Bonjon. Il est 19h49 ici à Paris. La guerre fratricide au Soudan fait rage depuis avril 2023. Les cas de violences sexuelles contre les femmes se multiplient. Si les deux camps commettent des exactions, les forces de soutien rapide sont tenues responsables de la grande majorité de ces violences. Par des experts de l'ONU, les troupes paramilitaires dirigées par le général Emeti sont issues des milices Janjaweeds qui ont participé au génocide du Darfour au début des années 2000, au cours duquel le viol a été utilisé comme arme de guerre. Et 20 ans après, ces exactions se poursuivent. À Omdurman, notre envoyé spécial Elliot Brachet a rencontré une victime, une femme de 28 ans. Elle a accepté de témoigner sous anonymat.
Le 14 janvier 2024, Fatima est enlevée par trois soldats des forces de soutien rapide. Au prétexte que son oncle travaille dans les douanes, elle est accusée de collaboration avec l'armée régulière.
Ils m'ont emmenée dans une maison obscure, il était minuit et demi environ. C'était très sombre, mais je pouvais sentir l'odeur du sang. Après m'avoir frappée, ils m'ont traînée par les jambes dans les escaliers jusqu'au deuxième étage. Le plus gradé d'entre eux est venu à moi. Il m'a dit « Tu collabores avec l'armée, je vais te violer pour jeter la honte sur ton oncle. » J'ai dit que j'étais tout juste mariée, que j'étais encore vierge. Il a dit « Je ne connais pas ce mot ». Il m'a violée, il est redescendu, le deuxième soldat est monté, puis le troisième.
Ce que raconte Fatima est arrivé à des milliers d'autres. Selon nos informations, les paramilitaires ont organisé un trafic d'esclaves sexuels à travers le pays. Des centaines de femmes ont été vendues sur des marchés au Darfour.
L'un d'entre eux a dit « Maintenant, on la bute ». Il a tiré en l'air, mais l'officier a dit « Non, moi je la veux, je la prends avec moi ». Il m'a dit que j'aurais la vie sauve à une condition. Tu rentres chez toi, tu prends tes affaires et à 5h du matin, tu pars avec moi. On va aller à Niala ou à El Fasher. Après m'avoir violée, j'étais devenue sa chose. Il pensait pouvoir faire de moi ce qu'il voulait. Quand je suis rentrée chez moi, je ne tenais plus debout. J'ai tout raconté à ma mère qui m'a dit « Tu ne pars pas avec eux ». Elle a demandé aux voisins de faire le guet. Il n'y avait personne dans la rue. À 3h du matin, on s'est enfui.
Une fois franchies les lignes de front, Fatima est interrogée par les renseignements de l'armée régulière. Ils veulent des informations sur l'ennemi. Personne ne se soucie de son état. C'est un nouvel enfer qui commence, celui du silence.
Quand mon mari l'a su, il s'est énervé, il a voulu divorcer. Au bout d'un mois, il a dit qu'il avait reçu un message de Dieu. Il a accepté de me garder à la condition que je ne dise rien, ni à sa famille, ni à personne. Chez nous, au Soudan, ce ne sont pas des choses qu'on peut dire, c'est la honte. En dehors de mes parents, de ma tante, personne ne sait.
4 ans après la révolution contre le régime d'Omar el-Bashir, qui avait porté un vent d'espoir pour les femmes, les Soudanaises sont les premières victimes de la guerre. Elliot Brachet, Khartoum, RFI.
Et sur RFI, à 20h40, heure de Paris, vous pourrez entendre « Soudan, les civils dans l'étau des généraux rivaux », un grand reportage d'Elliot Brachet. À suivre également sur notre antenne Accent d'Europe avec un bilan bien décevant pour la conférence sur le climat, la COP29 qui a finalement trouvé un accord dimanche. À Bakou, en Azerbaïdjan, les pays occidentaux ont convenu de financer à hauteur de 300 milliards par an la transition énergétique pour les pays du Sud, bien loin de ce que ces derniers demandaient. Une fois encore, la conférence est tenue dans un pays controversé. Selon un militant écologiste, la COP a d'ailleurs été l'occasion de signer de nouveaux contrats en matière de production de gaz.
Durant la COP, la Serbie et l'Azerbaïdjan ont discuté de la construction d'une nouvelle centrale de gaz en Serbie. On parle d'un investissement de plus d'1 milliard de dollars de la part de l'Azerbaïdjan. Cela montre bien que le pays cherche avant tout à aggraver l'addiction de l'Europe aux énergies fossiles.
Un reportage à retrouver à 20h10 heure de Paris, Accent d'Europe et en podcast sur le site du même nom. Dans la soirée couleur tropicale, bien sûr, avec pour invité Mo Green et ses invités, Mo Green, DJ et producteur franco-algérien, qui présente son nouvel EP Right Now, disponible depuis fin novembre. 9 titres dans lesquels il célèbre la diversité culturelle. Mo Green qui a collaboré avec plus de 70 artistes internationaux. Et on écoute un extrait. Quel est les
Mo Green Chiller. Faut que ça pète, faut que ça saute.
Green a retrouvé ce soir dans Couleur Tropicale et puis musique encore le maître ougandais de la soul, Michael Kiwanuka, révélé sur la scène mondiale à 24 ans, sort aujourd'hui son 4e album Small Changes, 11 ballades et on écoute Low Down. C'est avec la soul donc que nous refermons cette première édition d'Afrique Soir à la réalisation. Valentin Blanc, je remercie comme toute l'équipe d'Afrique Soir. Merci de votre fidélité. Restez à l'écoute de la Radio du Monde. Bonne soirée à vous.
Santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
prévention, prise en charge du paludisme, des spécialistes répondent à vos questions.
Mercredi,
prendre soin de ses cheveux et de son cuir chevelu.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Que du bonheur en son et RFI Talent présente Candy Guerra. Découvrez le remix du titre Talent Loge de la voix d'or du Faso avec le DJ français Hors d'œuvre. Disponible sur toutes les plateformes.